Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette libre antenne du jeudi et j'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis. Vous le savez, ici, 7 jours sur 7, c'est l'endroit où il faut se trouver pour discuter, pour échanger, si vous en avez envie, bien évidemment. Vous composez le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, vous nous appelez au 39-21, 7-39-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS. Vous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis vous nous écrivez aussi en privé sur le groupe Facebook où vous êtes toujours plus nombreux et vous êtes 17 538 membres de cette communauté de la Libre Antenne. 7 jours sur 7, le week-end avec Anne Moix, la semaine avec l'équipe de la semaine. 7 jours sur 7, l'endroit pour échanger, parler, être entendu, écouter, et bien c'est ici. Votre Libre Antenne du jeudi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et puis avant de débuter cette émission, je voulais revenir sur un point que nous avons remarqué sur le groupe de parole Facebook. Certains d'entre vous ont été heurtés visiblement par les échanges que j'ai pu avoir avec ce monsieur qui était vacataire, qui était donc professeur. Et Philippe nous racontait un petit peu son expérience personnelle. Vous avez été un peu... Enfin, certains d'entre vous ont été un peu choqués, ébranlés par mes propos. Alors bien évidemment, si je les ai choqués ou ébranlés, ça n'était pas du tout le but recherché, je m'en excuse. Mais il faut tout de même reconnaître que cette rentrée 2022 n'a jamais été aussi désordonnée et qu'il y a beaucoup de problèmes et que malheureusement, tout ce que nous avons dit durant cet échange s'avère être réel. Donc ma pensée a dépassé ce que je disais lorsque je disais qu'il fallait envoyer ses enfants dans le privé, parce que il y a beaucoup d'établissements publics, bien évidemment, qui assurent une éducation et un enseignement très bon pour nos enfants. Et donc, bien évidemment, je m'excuse d'avoir dit cela, parce que mes mots ont dépassé ma pensée et je ne voulais absolument pas heurter. Et pour en plus connaître bon nombre de professeurs, amis et relations qui travaillent dans le public. Donc je voulais vraiment m'excuser si je vous ai blessé et ça n'était pas du tout le but de la manœuvre. Et bien évidemment, il y a dans le public comme dans le privé tout un tas de professeurs et d'instituteurs, bien évidemment, qui ont cette vocation d'enseigner et qui font à 200% leur travail. Donc mille excuses si je vous ai heurté. Et on va accueillir Marie maintenant au 39-21. Bonsoir Marie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marie?
Moi je vous appelle de Vendée.
De Vendée, d'accord. Et quel âge avez-vous Marie?
63 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi.
Je vous avais entendu parler d'arnaque là, avec les dames qui ont perdu leur argent.
Oui.
Et moi, je tenais à apporter mon témoignage sur un autre genre d'arnaque.
D'accord.
Je vais vous expliquer. moi, jusqu'en 2005, j'étais dans le Nord. En 2005, on est venu s'installer en Vendée.
Oui.
Hein? Et puis malheureusement, mon compagnon est décédé d'un cancer en 2008.
D'accord.
Donc je suis seule depuis tout ce temps-là. Voilà, là c'est pour un peu bâtir les formes. Il se trouve, maintenant je vais vous expliquer, que de temps en temps, dans ma boîte aux lettres, j'avais des flyers hein, en couleur, de toutes les formes, d'entreprises, hein, oui. Jardinage, maçonnerie, etc. Et donc, il s'est trouvé que mon jardinier habituel est parti en retraite. Donc, bah, j'ai pris un de ses flyers et j'ai téléphoné à une société. Mmh. Et qu'elle m'envoie un devis. Donc, elle m'a envoyé un devis. Ça faisait 1390 euros. Bon, bah, j'ai dit d'accord, mais j'ai dit... j'ai des herbes de la pampa, il faudra les déraciner.
Oui.
M'a dit oui, y a pas de problème, c'est compris dans le prix, etc. Donc j'ai accepté le devis et on a pris rendez-vous. Et puis ils sont venus. Donc ils ont fait des broussaillages, ils ont coupé les herbes de la pampa. Mais seulement à 30 cm du sol. Et puis...
À 30 cm du sol, c'est ce que vous vouliez ou... Non, ça, c'était
non,
un
non,
petit
non,
peu
non,
haut.
Non, moi je voulais qu'il ait des racines, qu'ils enlèvent tout. Et donc, voilà, la fin de journée s'est fait. Je leur ai dit, ça n'a pas été fait comme je veux. On reviendra. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Et ben je les attends, hein, depuis. Hein. Et maintenant, les herbes de la pampa, elles font 2 mètres. Et moi, j'ai plus les moyens de, malheureusement, de pouvoir payer quelqu'un d'autre, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et vous avez payé cher tout cela, Marie ?
Ah ben oui, 1390 euros.
1390 euros.
Plus 200 euros. Parce qu'en cours du travail, l'ouvrier qui avait une tronçonneuse m'a dit être tombé sur un fil de fer, qu'il avait cassé sa chaîne et qu'il fallait que je la paye. Donc j'ai donné 200 euros de plus. Voilà, voilà, voilà.
C'est normal, ça c'est...
Non, c'est pas normal. Non, 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 non.
Non,
non, non, parce que des tas de gens me l'ont dit.
Ben oui, normalement, c'est le risque.
Voilà.
Enfin, je suppose
voilà.
qu'il doit faire attention, lui, et ça n'est
voilà.
pas de votre
voilà.
fait. D'accord.
Voilà. Il se trouve que je souffre de phobie sociale, hein, donc je fréquente très peu les gens. Mais les gens l'ont su et tout le monde m'a dit autour de moi, même mon psy m'a dit, madame, il faut jamais, jamais, jamais s'adresser à ces entreprises-là. Ça, c'est des entreprises qui vont dans les quartiers chics, hein, mettre leurs flyers, mais vous n'aurez jamais le travail d'un vrai professionnel, ce sont des roublards.
Ah, voilà. Ce sont des roublards, d'accord.
Voilà. Ils m'ont dit surtout, quand vous trouvez un de ces papiers dans la boîte aux lettres, mettez-le à la poubelle. Et si vous avez quelque chose à faire, renseignez-vous plutôt autour de vous, même à la mairie. Et c'est vrai, j'ai téléphoné à la mairie, et à la mairie, ils m'ont dit effectivement, il ne faut jamais... jamais tenir compte de ce genre de choses. Parce qu'ils m'ont dit, vous savez, ils m'ont dit à la mairie, vous savez, madame, une entreprise sérieuse, elle n'a pas besoin de ce genre de publicité. Hein, elle ne fait pas déplacer des gamins le samedi, des gamins de 12-13 ans pour mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Hein, les entreprises qui sont bien n'ont pas besoin de ça, quoi.
Oui, normalement, c'est vrai. Bon, après, peut-être qu'il y a des plus petites entreprises qui ont besoin de ce type de procédé pour se lancer,
ben
pour se
oui,
faire connaître.
Ben, moi, c'est ce que j'ai pensé, c'est oui. ce que je lui ai dit à la mairie. Elle m'a dit, écoutez, madame, nous... on est bien placé pour le savoir parce que toutes ces petites entreprises, on les connaît parce que même une entreprise débutante, va se renseigner à la mairie, fait des études de marché, etc., etc. Et si elle est compétente, dès le début, elle trouvera du boulot. C'est pas le problème. Voilà. Alors moi, je voulais dire aux gens, ben méfiez-vous. Parce que moi, je me suis fait avoir, je suis pas la seule. Hein. Y a une dame qui vient pour les vacances dans sa petite maison là au bout de la rue. Elle s'est fait abîmer ses tuiles.
D'accord. Hein, et vous, au-delà de ça, le travail, bon, qui n'a pas été fait comme vous le vouliez, hein, Marie, ils ne vous ont pas abîmé quoi que ce soit, parce que vous avez un petit jardin, c'est ça?
Donc, j'ai deux petits jardins.
Deux petits jardins.
Un devant, un derrière.
Et donc, il n'y a pas eu... par exemple, souvent, ils y vont vite et ils peuvent couper des fleurs ou des arbres ou endommager des choses.
Ils m'ont coupé mon pêcher de vigne. J'avais un pêcher de pêche de vigne, ce qui est assez rare. Hein. Ils me l'ont coupé et ils m'ont coupé mon cornouiller. Cornouiller, c'est un peu comme un forsythia. Ça ressemble à ça.
Oui.
Voilà. Et ça, je leur avais dit, surtout, faites attention. Oh, madame, on peut pas faire autrement. Voilà. Voilà.
D'accord.
Donc, ben, faut se méfier. Quoi. Moi, j'étais pas au courant. Hein, j'étais pas au courant. Moi, je pense toujours que le monde est beau, le monde est grand, quoi. Hein, à 63 ans, je suis encore assez naïve. Hein. Mais cette dame-là, ben, c'est pareil. Elle a eu un flyer pour un démoussage de tuiles, hein, un entretien. Et elle s'est fait avoir et voilà, quoi. Et voilà. Ses tuiles sont abîmées, sont devenues poreuses. Donc, elle doit envisager, quoi, de les changer. Et oui.
Bon, mais la prochaine fois, c'est sûr, vous avez raison de dire qu'il vaut mieux s'adresser à des entreprises qui ont déjà une certaine réputation. Hein.
Et surtout, renseignez-vous auprès de votre mairie. Parce qu'à la mairie, ils savent beaucoup de choses, ils connaissent beaucoup de monde, ils reçoivent souvent des échos. Surtout, moi, je vous le recommande parce que vraiment, ils sont très bien. Là où je suis, je peux le dire, hein, je suis au Sable d'Olonne, je suis au Château d'Olonne.
Oui.
La mairie, c'est extra. Les rues sont propres, vous avez toute la journée des petites camionnettes qui se promènent, qui ramassent de tout. Ils plantent, ils font des plantations sur les trottoirs. À une époque, il y avait des cassis. Je me suis régalée avec ça. Enfin, j'ai téléphoné avant. J'ai dit, est-ce qu'on peut prendre la récolte? Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci. Si vous aimez ça, vous pouvez les cueillir. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas abîmer, quoi. C'est ça.
Et du coup, quand vous rappelez au numéro qu'il y avait sur le flyer, en fait, ça ne répond plus ou on vous dit que on vous dit quoi, en fait?
Ah, bon, on me dit, faites-nous un procès, madame.
Oui, ça veut dire que, bon, ils n'en auront rien à faire, au final.
Voilà, vous avez compris.
Ouais.
J'ai pas insisté.
Oui, bah oui, ils savent très bien que vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose de la sorte.
Je n'en ai pas les moyens, ils l'ont très vite compris. Hein.
Très bien, mais merci beaucoup Marie, en tout cas, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
De rien.
À bon entendeur, comme on dit. Hein. Il faut faire attention.
Méfiez-vous. Voilà.
Très bien. On vous embrasse bien fort, Marie.
Moi aussi, Olivier.
Passez une bonne soirée.
Bon courage.
Merci.
Et je trouve sincère et sympa.
Merci. On vous embrasse.
Allez,
Marie. Au revoir.
Au revoir à toute l'équipe.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Europe 1, il est 23h23. Vous pouvez composer le 39 21. Vous pouvez nous écrire au 7 39 21, suivi du mot « nuit » écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, vous le savez. Et puis Florian et Julia vous attendent. En régie, on accueille Aline maintenant au 39-21. Bonsoir Aline.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien.
D'accord, j'ai mis le haut-parleur. C'est plus facile pour moi.
Bah, écoutez, en tout cas, pour l'instant, je vous entends très bien. Donc, on va faire comme ça.
Bon, parfait. Parfait.
Très bien. Alors, vous habitez où, vous, Aline ?
J'habite à Estibault,
oui.
Une petite commune près de Dax, dans les Landes.
Près de Dax, d'accord. De quoi allez-vous nous parler, Aline ?
Alors, je vais vous parler, Olivier, je vais vous résumer vite fait la situation.
Oui.
Qui en est arrivé au point que ce dont je veux vous parler aujourd'hui. J'ai un gîte que j'ai loué par un organisme de location à un couple d'Américains au mois de juin.
D'accord.
Ils sont venus passer une semaine et au bout de 4 jours, ce monsieur m'appelle, c'était 9h du soir, il ne parlait pas français, il parlait anglais. Il me fait signe de venir dans le gîte, j'y vais, et il me montre la chambre. J'y vais, je me dis, il veut me montrer quelque chose qui ne va pas, et il ferme les volets.
D'accord.
Bon, très bien, c'était 9h du soir. Et puis il me dit de m'allonger sur le lit.
Ah.
Oui, ouais. Olivier, je m'allonge sur le lit.
Vous vous êtes allongé sur le lit ?
Oui, je me suis allongée sur le lit, Olivier. J'étais comme une automate. Après, il me dit, il se met sur moi.
Oui.
Je ne réagis pas. Je lui dis, je faisais que répéter, je suis morte. J'avais le bras, il me prend le bras pour le mettre sur lui, autour de lui.
Oui.
Mon bras retombe. Comme si je n'avais pas de réaction.
Oui, oui.
Il change de position. Il me dit de me mettre sur le côté.
Oui.
Ce que je fais. Il se met contre moi. Je n'ai aucune réaction. Voyant que je n'avais aucune réaction, il me dit de venir sur lui. Ce que je fais, je n'ai aucune réaction, mais je le fais. Et tout d'un coup, Olivier, je prends conscience que je suis sur lui, et je me lève d'un bond.
Oui.
Je me lève d'un bond, je m'assois au bord du lit, et il se lève, et il veut commencer à me faire des chatouilles.
Il est très étrange, cet Américain, dites-moi.
Plutôt. Je lui dis ça non. Je sais quelques mots d'anglais. Je lui dis David, slowly, please, slowly. Et je ne supporte pas les chatouilles. Je me lève et je m'en vais. Ceci, Olivier, ça a duré 3 heures. Je sors du gîte. C'était minuit. Il faisait nuit, bien sûr. Et je me suis dit. Qu'est-ce qui t'arrive, Aline ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je rentre chez moi, le gîte est à côté de la maison maintenant. Je rentre chez moi, mon mari qui est parkinsonien depuis 22 ans, bon, enfin, qui ne me pose pas de questions. Et je vais dans ma chambre et je vais me coucher. Le lendemain, ce monsieur me dit « Voulez-vous que l'on parte ?» Je lui réponds « Le plus tôt sera le mieux. »
Mais que l'on parte, ça veut dire qu'il était, il n'était pas seul, cet Américain ?
Non, voilà. Il avait une femme de 83 ans. Lui avait 55 ans.
Oui.
Et sa femme avait 83 ans.
D'accord.
Et elle était bien sûr dans la pièce à côté quand il était dans la chambre avec moi.
D'accord. Il est sacrément gonflé quand même.
Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais vous, cette réaction, Aline.
Oui.
Arrêtons-nous un instant sur cette réaction.
Oui, oui.
Vous étiez sidéré à vous exécuter comme ça ?
Absolument, j'en ai parlé. Je vois une psychologue à cause de mon mari, j'ai besoin de parler. Oui. Ça fait 22 ans que mon mari est parkinsonien et j'ai besoin de parler. Et je lui raconte ça en me culpabilisant, bien sûr. Mais je lui raconte les faits exactement. Et elle me dit, elle me parle de l'effet de sidération. Mmh. Et justement, elle me dit, c'est comme ça souvent que les jeunes enfants, les enfants, sont sidérés et se laissent faire par les personnes qui les agressent, qui les violent, oui, parce qu'elles sont dans un état de sidération. Ça m'a un peu soulagée, Olivier, d'entendre ça. Parce que je me suis dit, enfin, je suis comprise, je ne comprenais pas ma réaction.
Oui.
Et ce couple est parti. Ce couple est parti, il est resté en France parce que depuis... Alors, il me disait évidemment qu'il était descendu en France parce que j'étais la femme de sa vie, que... Voilà, j'étais la femme de sa vie. Et qu'il fallait que... Ah oui, alors, non seulement j'étais la femme de sa vie, mais il fallait que je me débarrasse de mon mari en le mettant dans une institution, qu'il fallait que je me débarrasse... J'avais un de mes fils aussi qui était là. Il m'a dit, écoutez, il faut faire partir votre fils. Je vous donnerai de l'argent pour qu'il trouve une location. J'étais ahurie. J'étais ahurie.
Oui, 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 vous m'étonnez.
Et donc, ils sont partis. Et depuis, ils me, je dirais, harcèlent tous les jours parce qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone, ils n'ont pas d'endroit précis. Ils font des locations comme ça, épisodiques, régulières.
Oui, oui.
Et donc il m'écrit tous les jours des mails, tous les jours, 3 ou 4 mails, en me disant qu'il m'aime, que je suis la femme de sa vie, qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas contrer cette évidence, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours. Je suis allée à la gendarmerie il y a 2 jours. Le gendarme m'a écoutée et il m'a dit que je ne pouvais pas porter plainte parce qu'il n'y avait pas de menace. De menace.
Oui.
Et il m'a dit que je pouvais quand même mettre une main courante. Ce que j'ai fait. Et il me dit, écoutez, si ça se renouvelle, eh bien, au moins, vous aurez une main courante. Alors, ce que je ne sais pas, moi, ces mails, évidemment, je les mets en spam. Je les ai gardés parce que je voulais prouver que j'avais X mails. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si vous, Olivier, vous connaissez quelque chose, une astuce ou quoi.
Une astuce. Qu'entendez-vous par astuce?
Pour supprimer ces mails. Pour pouvoir supprimer ces mails. Alors, je me suis dit, je vais changer de boîte mail. Est-ce que c'est la solution?
Changer de boîte mail si cela ne vous pose pas de problème, si vous voyez, si votre adresse mail si vous ne vous en servez pas beaucoup de cette adresse mail, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est embêtant.
Oui.
Parce que votre gîte, vous allez bien devoir mettre une adresse pour ce gîte.
Et donc, c'est ça. Il faut que j'avertisse tous les organismes qui me contactent par.
Non, moi, enfin, à votre place, je ne changerai pas d'adresse mail. Il faut simplement que... Alors, je ne sais pas si on peut faire opposition ou si on peut bloquer, mais à mon avis, oui. On doit pouvoir bloquer parce que ça se fait sur toutes les plateformes, en tout cas, toutes les applications. On doit pouvoir bloquer un correspondant puisque sur votre téléphone, vous avez aussi cette fonction, vous savez, pour bloquer ne serait-ce que tous les appels publicitaires. Vous voyez ? Donc, je pense que si quelqu'un autour de vous s'y connaît un petit peu, et je demande en régie à Florian, qui a l'habitude, lui, de tout cela, les mails, peut-on bloquer un correspondant par mail ? Lui me dit que oui, vous voyez ? Ça ne doit pas être très compliqué. Parce que dans les paramètres de votre compte, de votre messagerie, vous voyez, vous avez un compte, vous devez avoir une fonction qui vous permet de bloquer ce correspondant-là. Parce qu'il ne faut pas que vous changiez de mail. Ça va obligatoirement vous porter préjudice au niveau de votre gîte. Et puis, vous n'allez pas vous mettre dans l'embarras alors que cet homme... Et puis, bon, il a, bien évidemment, il a eu un comportement audacieux, on va dire, des plus étranges. Mais comme il vous a vu, comme vous étiez sidéré et que vous êtes exécuté, dans sa tête, lui, il doit s'être monté tout un film. Vous, il a bien compris que vous étiez choqué. Vous avez eu l'occasion de le lui dire ou pas du tout? Oui.
Si, je lui ai dit. Il n'avait pas compris pourquoi je leur avais demandé de partir. Ah oui, je lui ai dit, vous n'avez pas compris. Parce que il a de suite, quand je parle en français, il a de suite, comment dirais-je, c'est de suite écrit en anglais. Quand je voyais, il a translate de suite.
Oui.
Je dis, et compris. Et ah oui, je lui dis, Olivier, David, il s'appelle David Solomon, parce que c'est un nom d'emprunt, David Solomon.
Oui.
Hein? Ah oui, je lui dis, David, vous me mettez, vous me faites aller dans la chambre, il avait mis ses mains sur mes fesses, c'était pour soi-disant mesurer mon énergie, parce que c'est un monsieur qui se dit chasseur en santé.
Chasseur en santé?
Chasseur en santé.
D'accord. C'est un concept.
Ah oui. Je lui dis, vous avez de drôles façons de mesurer l'énergie des gens.
Oui.
Et il avait aussi une opinion sur les femmes françaises qui étaient faciles, qui couchaient avec n'importe qui, etc. Ah mais oui, je lui dis, mais ça, ce sont des généralités dont vous me parlez.
Voilà. C'est-à-dire, dites-moi.
Que les femmes françaises couchaient...
Facilement.
Facilement, voilà. Avec n'importe qui, en fait. Vous voyez, ce n'étaient pas des personnes fidèles.
Dites donc, il avait quand même des préjugés assez tranchés, cet homme.
Ah, mais complètement.
On va prendre Bernadette, qui nous a appelé au 3921.
Oui.
Aline, qui souhaitait réagir à votre témoignage. Bonsoir, Bernadette.
Oui. Bonsoir, Olivier. Oui, je me permets d'intervenir pour Aline. Étant donné qu'il s'est passé des choses incroyables au départ, pour toutes les SMS qu'elle reçoit, il faut qu'elle demande à un informaticien de venir les retransmettre, parce qu'elle va remplir sa boîte pour les enregistrer, et après son portable va être bloqué. Donc elle appelle un informaticien qui va lui mettre une boîte sur son disque dur pour faire ressortir tous les SMS sur papier. Parce que s'il continue comme ça, ça va être encore une pièce supplémentaire à rajouter au dossier avec sa main courante. Donc il va falloir qu'après, la gendarmerie fasse quelque chose. Mais il ne faut surtout pas qu'elle change d'adresse mail, il ne faut surtout pas qu'elle réponde. Pour l'instant, elle enregistre, elle appelle un informaticien, il va lui poser un appareil sur son disque dur et tous les SMS qu'elle a sauvegardés vont pouvoir, elle va pouvoir les recopier sur une feuille qu'elle va pouvoir laisser à la gendarmerie.
D'accord. Dis donc, vous avez l'air calée. Ah ben voilà, elle parle de recopier sur une feuille. Vous avez l'air calée, Bernadette.
Ah oui, parce que j'ai eu le même problème avec, je dois vous en parler, de cette affaire-là, un viol avec un concierge qui m'a envoyé 400 SMS. Hein.
Voilà, mais racontez-moi, bah, on est ensemble, autant que vous me racontiez, que s'est-il passé ?
Ben, pendant 4 ans, pendant 6 mois, j'étais harcelée par un concierge qui avait mainmise surtout sur le courrier, sur l'eau, etc.
Dans votre résidence, enfin, où
oui,
vous habitiez ?
Oui, enfin, là, j'habite plus là, hein. J'ai changé. Et il a voulu me prendre en photo parce qu'il m'a dit, si tu veux retrouver ton fils, parce que je ne vois pas mon fils depuis 22 ans, il faudrait peut-être que tu sois souriante. Alors, il m'a dit, je te prends en photo. Bon, c'était le concierge, il n'y avait pas de problème.
Ouais, ça a dû vous surprendre.
Oui, mais
quand
la photo, c'était de profil, hein, c'était pour voir la photo de profil sur Facebook. Et la photo, ce n'était pas une photo qu'il voulait, c'était beaucoup plus. Et ça n'a pas arrêté, ça a continué pendant 6 mois.
Oui.
Mais c'est un ancien gendarme. Donc j'ai fini par envoyer tous les SMS qu'il m'envoyait à Foncia, qui était son employeur.
Oui.
Après. J'ai envoyé les photos, parce qu'il m'envoyait des photos morbides de ce qu'il faisait. Il faisait du sadomasochisme chez lui.
Oula.
Il venait chez moi, puis il me disait « t'as intérêt à ouvrir ta porte, parce que tu sais bien que je partirai ton portable et tu pourras pas ouvrir aux gens qui vont venir à la Tour Lamartine ». Donc là, j'étais bien coincée. Et il avait mis sur le courrier aussi. Le courrier, on lui apportait à 6h du matin, il le mettait dans les boîtes, s'il avait envie. S'il avait pas envie, il ne le mettait pas. Et comme j'étais consultante juridique à cette époque-là,
oui.
J'avais quand même des clients. Et ça a duré 6 mois. Et ça s'appelle en droit des récompenses. Il m'offrait des strings, enfin tout.
Non,
et puis
était,
il voulait
il
que je les mette devant lui. Comment ?
Il voulait que vous les mettiez devant lui ?
Ah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait.
Vous
je
l'avez fait, fait
oui,
comment
oui,
ça ?
Parce que eh ben, j'étais chez moi dans mon appartement et puis il était là, puis il ne voulait pas sortir. Et puis comme il m'a dit, de toute façon, tu sais très bien ce qui va t'arriver si tu n'exécutes pas ce que je te dis. Moi, je te coupe le courant, je te coupe l'eau, je te coupe le numéro de portable et tu n'auras rien. Il avait mal mis sur tout, sur le courrier, sur les colis, sur tout. Donc j'étais, et puis il savait que j'étais toute seule. Donc j'étais coincée. Et puis un jour... il m'appelle un matin et comme je dors, parce que je prends beaucoup de médicaments suite à une dépression, il me dit « il y a un colis et vous connaissez les horaires pour vous ?» Oula. Je suis descendue et je vois sa femme. Elle me dit « vous venez pourquoi ?» Je lui dis « j'étais sans voix, je lui dis « ah ben si je vous dis, parce qu'elle me dit « ça fait 6 mois qu'on ne vous a pas vu, 6 mois que vous avez les volets fermés. Mais j'y ferais peut-être quand même vous poser des questions par rapport aux locataires. » Elle dit que vous étiez en vacances. Ah non, je dis pas du tout. Pas du tout, je dis. Alors elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes embêté par quelqu'un ? Par une femme ? Ah non, je dis non, je suis encore pas de ce bord-là. Alors elle me dit, par un homme ? Oui. Qui ? Alors elle me dit, ben c'est qui ? Ah ben là, je dis, si je vous le dis, la tour de 13 étages s'écroule. Et hier, j'ai voulu sauter du 13e étage. Mon mari, qu'elle dit. Oui, j'ai votre mari. Vous lui dites tous les lundis au café. Mon chéri, ben oui, c'est votre chéri. Elle me dit, c'est pas possible. Ah ben, j'ai toutes les photos, j'ai tous les témoignages, j'ai toutes les vidéos, et j'ai tous les SMS. Elle arrive chez moi, il téléphone. J'ai regardé. Qui téléphone, là ? C'est bien votre mari. Elle regardait les photos, elle ne le reconnaissait pas. Ben, elle me dit, je dis, vous ne connaissez pas votre mari, vous ? Ben, vous couchez avec qui, donc ? Ben, elle me dit, il est rasé. Oui, j'ai tous les matins, à 6 heures du matin, il me demande de le raser. Ah bon ? Vous
mais,
faites
mais
ah non, je ne fais
ah
pas
bon,
ça.
Ah
non,
bon, vous m'avez
non,
fait peur.
Je ne fais pas. Et puis après, ben, il est venu, elle est venue avec lui. Lui, il a voulu se suicider. Elle a voulu se séparer. Et puis ça s'est mal passé. Et puis les gendarmes se sont mis pour lui.
En tout cas,
parce que
on
c'est
voit,
un ancien gendarme.
On voit
et
quand
je dois
même.
Vous en parler de cette histoire. Parce que ça fait déjà 4 ans et je n'arrête pas d'y penser.
Mais oui.
Et j'en fais des cauchemars.
J'ai
déjà été abusée par mon père. Et j'ai déjà subi d'autres viols par des clients quand j'étais consultante juridique, mais là, le gendarme, ça passe pas. Ça a duré 6 mois. 6 mois.
En tout cas,
tout
entre...
ça pour avoir la photo de mon fils qui aujourd'hui ne me parle toujours pas. Ça fait 32 ans.
Alors,
22 ans. Parce qu'il a 32
entre,
ans.
Entre le témoignage d'Aline hein, et
oui.
Votre témoignage, Bernadette, toutes les deux, vous avez quand même. On voit qu'il y a des hommes qui tentent. Et qui poussent toujours plus loin, hein, qui n'ont pas de scrupules.
Ah bah, il avait facile, parce que de toute façon, il prenait tous les numéros de portable des gens, et par quand les gens venaient sonner à la porte de la résidence, c'était notre téléphone qui sonnait, et on répondait au téléphone. Mais il pouvait très bien retiré mon téléphone de sa boîte informatique et les gens pouvaient venir sonner à la porte, j'aurais jamais rien entendu et j'aurais jamais ouvert. Et comme j'avais le VSL qui venait me chercher tous les 15 jours, puis j'avais des clients qui venaient. Donc, à force, après, quand ils m'ont envoyé les vidéos, ben, j'ai montré aux clients, j'ai dit, regardez ce qu'il m'envoie le concierge. Et puis, ils ont tous fait un témoignage. Et malgré les témoignages, son employeur qui était foncier et qui avait reçu les mails, je leur ai envoyé les mails. Et après, j'ai envoyé les photos, mais les photos sans sa tête. Et ils m'ont dit, vous avez envoyé les photos, mais à un mineur. Ah bon ? J'ai chez Foncia, il y a des mineurs qui travaillent. Et après, et en fin de compte, l'affaire a été classée pour insuffisance de pièces.
Classée par la police ou classée
oui,
par Foncia ?
Par le procureur de la République. Parce qu'en appel, il y avait un vice de procédure, mais il aurait fallu avoir une confrontation avec lui. Mais je ne me sentais pas du tout apte à avoir une confrontation et il fallait de l'argent. Donc,
alors, on va retourner sur l'histoire d'Aline.
Donc, faut surtout, c'est pour ça que l'histoire de SMS, elle va bloquer son téléphone. Donc,
alors,
il faut qu'elle
ne sont pas des SMS. Ce ne sont pas des SMS, Aline. Hein, ce sont des mails qu'il vous
des
envoie.
Des mails, c'est ça.
Ah, des mails.
Ouais. Oui, des mails.
Non mais.
Alors, j'ai prévenu à Buse parce que je suis chez Orange. Je leur ai envoyé les mails, mais ils n'ont rien fait, ça continue.
Mais ils ne peuvent rien faire, Aline.
Ah,
ça n'est pas leur... ils sont fournisseurs d'accès Internet. Orange, si vous voulez, ils vous fournissent un outil, mais qui a plusieurs paramètres, et vous pouvez paramétrer.
Oui.
Florian me l'a dit, me l'a redit. Vous pouvez paramétrer votre compte afin qu'à chaque fois que cet homme vous écrit... bien, ça soit bloqué, en fait.
Que vous ne
receviez pas le mail.
Oui, est-ce que je peux aller chez Orange et leur demander ce service ?
Chez Orange ?
Ou non ? Oui.
Oui, tout dépend. Oui, vous pouvez aller dans votre... chez votre concessionnaire, enfin je ne sais pas si on appelle concessionnaire, ou... mais enfin vous allez chez Orange, si vous êtes chez Orange, et puis il y a bien des techniciens là-bas ou un des vendeurs là-bas qui va vous aider. Ils ont des ordinateurs,
d'accord.
Ils vont aller sur votre compte et ils vont vous aider à paramétrer,
d'accord,
si vous ne savez pas le faire. Mais on voit quand même, en écoutant Bernadette et en vous écoutant, qu'en fait, Bernadette, vous vous exécutiez quand même. Vous étiez dans la peur. Comme vous êtes exécutée, Aline. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur, Aline, quand il vous a demandé de vous allonger
J'étais une automate.
Oui.
J'avais pas peur. J'étais une automate. Je ne ressentais rien. Et puis j'étais comme morte. Mon bras, quand il a pris, il est retombé vraiment comme.
Oui. Oui, vous étiez en état de sidération, en fait.
C'est ça.
Vous avez déjà vécu ce type de ressenti, vous,
non.
Bernadette ?
Ah oui.
Oui.
Bernadette, oui, sais pas.
Oui.
Vous avez déjà ressenti ça avec ce concierge, c'est-à-dire que à un moment vous vous exécutiez sans pouvoir
réagir.
Sans pouvoir contrôler.
Parce que quand vous réagissez, j'ai eu malheureusement un autre viol avec un client et j'ai voulu le repousser. Alors là, c'est horrible, horrible. Il faut surtout pas bouger. Il y a eu une émission, il n'y a pas tellement longtemps, qui est passée à la télé, en se demandant pourquoi les filles ou les femmes se laissaient plus ou moins faire. On n'a pas d'autre possibilité. Si on repousse le violeur, alors là, il devient méchant, il vous tue. On ne peut pas faire autrement. Alors, c'est ce qu'elle dit, la dame, il devient méchant. On ne peut pas. Donc, il faut exécuter.
Aline,
faut exécuter.
Cet homme ne s'est pas énervé après vous, en tout cas. D'accord.
Du tout.
Mais là, lorsqu'il vous écrit, il est retourné aux États-Unis ou
il est toujours en France. Il ne veut pas retourner aux États-Unis, bien que son visa ne soit plus d'actualité.
Oui.
Il veut rester en France. Et je ne sais pas,
vous.
Il est par là, dans les Landes, je sais, mais.
Il vous dit qu'il veut rester pour vous.
C'est ça. Que je suis sa femme.
Et qu'est-ce qu'il vous dit de sa femme? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à sa femme? Il vous en parle de sa femme?
Et sa femme, elle est d'accord.
Sa femme est d'accord. Bon.
Sa femme est d'accord.
Eh bien,
quelle histoire. La folie. Oui, non, mais on marche sur la tête. Enfin, je ne sais pas, mais...
Alors, il faut bien évidemment que vous ne vous fassiez pas trop de soucis par rapport à ça, Aline. Hein. Vous êtes tombée sur quelqu'un qui... Alors, peut-être, hein, a eu un coup de foudre pour vous. Ça, c'est possible.
Écoutez, il ne m'avait jamais vu auparavant, Olivier. Il ne m'avait jamais vu auparavant, cet
homme.
Oui,
mais bon, il a pu avoir un flash sur vous. Ce qui n'empêche que vous, ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin avec cet homme. Donc, ne vous en faites pas trop. Vous bloquez, hein, faites paramétrer votre adresse mail. Et puis, vous passez à autre chose, mais ne changez surtout pas d'adresse mail, parce que votre gîte, là, vous avez sans doute créé une clientèle, il y a plusieurs organismes qui doivent vous le faire tourner, comme ça, vous le faire louer. Ça serait dommage de détruire tout ça.
D'accord.
Hein,
d'accord.
Vous êtes d'accord avec ça, Bernadette?
Bah oui. Il n'y a que comme ça qu'ils vont bouger, là, maintenant, la gendarmerie. Ils vont se dire, là, ça va un peu loin, quoi. Parce qu'ils se bougent, parce que moi, j'y crois plus du tout.
Ah oui, non, mais pour vous, parce qu'Aline, vous n'avez pas déposé de main courante ou quoi que ce soit.
Si, j'ai déposé une main courante.
D'accord, mais c'est bien, restez là, vous en restez là, vous n'avez pas porté plainte contre lui pour l'instant. Par contre, si après avoir bloqué cet homme, il vous appelle ou s'il vient rôder autour de chez vous, ce qui est possible, hein, là, il faudra que vous déposiez plainte, hein, parce que ça...
D'accord.
Ça vous... Voilà, il sera sans doute pris ou interrogé par les autorités. Et puis, peut-être, ça va le calmer. Mais là, pour l'instant, si ça se borne à des mails, bon, bloquez-le. Et puis attendez de voir si ça marche comme ça. Par contre, encore une fois, s'il insiste... Si... Parce qu'il a votre numéro de téléphone, cet homme.
Je pense, puisque pendant pour la location qui est passée par un site de location, pour le citer, c'est Homerez, oui, bien sûr qu'ils ont mon numéro de téléphone et ils devaient l'avoir quand il a loué le gîte. Mais ça... il ne m'a jamais appelé.
Non, c'est pas évident qu'il ait votre numéro de téléphone. C'est... L'organisme...
Il ne m'a jamais appelé.
Bon, donc c'est qu'il ne doit pas l'avoir, parce qu'à mon avis, entreprenant comme il a été... Je pense qu'il vous aurait appelé.
D'accord.
Bon, en tout cas, courage à vous, hein, Aline.
Oui,
et
merci
puis,
beaucoup.
Portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler si c'est dans l'escalade. Hein, si vous
d'accord.
avez à nouveau des soucis, n'hésitez pas. Vous connaissez le chemin.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Aline.
Je vous apprécie beaucoup et je remercie également Bernadette. Merci beaucoup.
Oui,
Bernadette.
Je vous en prie. Vous savez, je suis passée par là, déjà par mon père de l'inceste. Et après, il y en a encore eu trois. Vous voyez, c'est boule de neige. Quoi.
Mais dites, Bernadette, en fait, vous avez déposé plainte contre ce concierge.
Oui, j'ai déposé plainte plusieurs fois. Et en fin de compte, c'est moi qui ai été punie parce que, étant donné que j'avais envoyé les photos à son employeur Foncia, mais sans sa tête, soi-disant que ça arrivait auprès d'un mineur. Et donc, j'ai pris 3 ans de surveillance au niveau du tribunal. Voilà, c'est moi qui ai été punie.
C'est-à-dire que vous avez envoyé
et
les
pourtant,
photos...
Et pourtant, le procureur a eu toutes les photos, a eu tous les témoignages, parce que quand les clients venaient, je leur montrais les vidéos et tout ça, ils ont témoigné. Malgré les témoignages, malgré les SMS et tout, il a eu gain de cause. Ancien gendarme, il a eu gain de cause.
Ah, l'affaire a été classée, il n'a pas eu gain de cause.
Elle a été elle a été classée pour insuffisance de preuves, exactement. Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas de preuves, oui, il ne fait pas ça quand il y a quelqu'un, oui, c'est sûr. Alors qu'il y a des clients, quand ils venaient, je leur montrais la vidéo qu'il faisait chez lui, là, je ne sais pas de quoi, de sadomasochisme, il se faisait des trucs un peu bizarres. Et ils ont témoigné en disant, oui, effectivement, chez Madame Bazoge, on a vu que le concierge lui avait donné une clé avec des vidéos assez sordides, mais ça n'a rien fait.
Bon, et là,
et
maintenant...
Moi, je recevais des SMS, mais tout le temps, tout le temps.
Mais donc, depuis que en fait, vous avez révélé ça à sa femme, ça s'est...
Alors, elle a fait tout le contraire, parce qu'elle est venue, et puis elle regardait les photos comme si... vous l'avez jamais vu, votre mari, ou quoi? Je ne sais pas, vous avez l'air de regarder ça. Comme, alors, elle a décidé de divorcer, lui, il a décidé de se suicider, et puis le lendemain, elle m'a frappé contre le mur de l'entrée.
Bon, depuis, vous avez déménagé, j'ai cru comprendre.
Ah, oui, là, je ne pouvais plus rester à la fin.
Bon, d'accord, et tout est calme, là, maintenant, où vous êtes?
Oui. Mais bon. De toute façon, j'avais dit que je vous en reparlerai, parce que ça, Non, personne n'a été puni. Mon père n'a pas été puni. Le deuxième non plus. Il y en a eu un de la SPA aussi. Je me dis, c'est pas possible. Et puis lui, parce qu'il est gendarme, il n'est pas puni. C'est encore meilleur, ça. C'est moi qui ai puni.
Vous avez été puni vraiment par la justice, en fait
par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières des Ardennes.
Qu'est-ce que vous entendez par 3 ans de surveillance, c'est-à-dire
Ils appellent ça 3 ans de...
De mise à l'épreuve.
On est amené à faire une faute correctionnelle ou pénale, là, on est devant le tribunal.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne devais plus lui parler, je ne devais plus... De toute façon, je ne m'approchais pas de lui. Et je devais surtout plus parler de cette affaire-là.
D'accord. Et ça n'était pas du sursis que vous avez eu?
Ah non.
D'accord.
J'ai eu 3 ans de surveillance.
Bon, écoutez, j'espère que ça ne va pas se reproduire. En tout cas, que les choses vont rester calmes comme elles le sont en ce moment, hein, Bernadette.
Oui, mais je suis devenue agoraphobe. Et puis, ma dépression ne va pas très bien en ce moment. Hein.
Oui.
Je peux vous dire que ça m'a laissé quand même des séquelles. Hein. Déjà, une enfance plus que chaotique. Et tout ça pour récupérer mon fils. Puis bon, mon fils, je ne le vois pas. Ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu. Il a 32 ans, ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu. Et le médecin l'a appelé récemment pour lui dire « Votre mère est malade ». Et elle est fortement déprimée. Elle se fait des entorses souvent. Il faut aller la voir. Il s'en fout. Il a dit, elle peut crever. Je n'ai rien à faire.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils, Bernadette?
C'est quand j'ai divorcé d'avec son mari, d'avec son père, je veux dire, pardon.
Ouais.
Oui, il n'avait que 6 ans. Mais son père l'a remonté contre moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il est né, mon gamin, je ne pensais pas que ce que j'avais subi par mon père allait me revenir en pleine figure. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon gamin tout petit, je m'en occupais très bien. J'étais toujours en train d'appeler le médecin pour un oui, pour un non. Mais impossible de lui toucher le sexe. Parce que pour moi, je me disais, mais je refais ce que mon père m'a fait, j'ai fait de l'inceste. Et je n'ai jamais trop compris. Et je m'en suis toujours voulu. Je me suis dit, un jour, je serai punie parce que je n'ai pas pu câliner mon gamin. Et il le ressent. Et puis, mon mari ne m'a jamais dit, va voir ainsi, tout ça. Et au contraire, il m'entassait, lui. Et puis, un jour, puis comme mon mari était très difficile avec moi, j'étais chez un employeur qui me harcelait toute la journée. Et il ne me laissait jamais quitter à l'heure. Et mon mari me disait que j'étais partie ailleurs. Je lui ai dit, écoute, si tu es un homme, tu viens au bureau, puis tu dis à mon patron de me laisser sortir. Mais il n'est jamais venu. Et au bout de 7 ans, j'ai dit, écoute, moi, je ne peux plus te toucher, parce que moi, si je n'arrive pas à câliner mon gamin, je n'ai pas le droit de toucher toi. Toi, tu es un étranger, mon gamin, c'est mes propres entrailles. Donc ça, il n'a pas accepté, je lui ai dit, on divorce. Mais le divorce s'est très mal passé, dans le sens où il n'a pas accepté, et il a remonté Julien, enfin mon fils, contre moi. Et il a pris la maison, il m'a dit, je te préviens, on va chez le notaire pour le partage de la maison, tu réclames pas ta part. Si tu réclames ta part, tu n'as plus le gamin. Donc, pour garder le gamin, j'ai rien réclamé. Le notaire, 3 fois, il m'a posé la question, vous êtes sûr? Parce que j'ai jamais vu ça. J'ai dit, oui, je suis sûr, je ne réclame rien. Entre-temps, ma mère est décédée, il y avait l'héritage de ma mère. Donc là, il dit, par contre, il y a un héritage, il faut que votre mari vous paye la soulte. J'ai dit, oui. Donc, je pars à l'hôpital me faire hospitaliser dans une clinique privée psychiatrique. Et Le notaire me rappelle, il me dit, Bernadette, vous avez été remboursée de votre soulte. Ah, je dis non. Ah ben si, vous avez signé un papier. Ah ben, je dis, écoutez, je voudrais bien le voir. Ah ben, il dit, vous pouvez venir. Donc là, je suis venue avec le gamin qui avait 10 ans. J'ai dit, Julien, tu vas venir, mon fils, j'ai dit, tu vas venir avec moi chez le notaire pour voir ce que ton père a fait. Et il me dit, regardez le papier. Oui, mais je lui dis, notaire, j'ai dit, maître, si vous me faites réécrire ce papier-là aujourd'hui, vous verrez que ce n'est plus la même écriture. Je peux vous certifier qu'à cette époque-là, j'étais sous cure de repos, j'étais perfusée sous anafranil pendant un mois.
Vous savez
donc
quoi ?
J'étais incapable de cerner quoi que ce soit.
Vous savez alors quoi, Bernadette, Bernadette, vous savez quoi ? Vous me rappellerez pour me raconter tout ça, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir, et là, c'est, votre histoire, elle est très très longue, donc on va devoir vous reprendre une autre fois au téléphone pour que vous me racontiez tout ça, d'accord ? D'accord.
Merci.
Alors,
Olivier.
Je vous embrasse toutes les deux et je vous souhaite une bonne nuit. D'accord.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et bon courage. Hein,
au revoir.
Merci. Merci. Au revoir, Bernadette. Merci, Olivier. Au revoir.
Il est minuit passé de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace comme vous le faites comme chaque soir, nombreuses et nombreux. Yvette, Laurence, Céline, Eric, Laurent, Marc, Claude, Isabelle, vous êtes nombreuses et nombreuses donc à avoir été touchées par le témoignage de Bernadette et d'Aline, un peu choquées par le comportement de ces messieurs très entreprenants. On peut, comme ça au premier abord, en rire, mais c'est, je pense, assez traumatisant pour ces femmes, on l'a entendu. Donc, premier dérapage de la part d'un homme comme ça, et il faut absolument que vous preveniez dans un premier temps votre entourage. Et puis, si vraiment le dérapage vous paraît étrange et qu'il vous fait peur, ne pas hésiter à déposer une main courante, mesdames. On accueille Marcel maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Marcel.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Marcel ?
Alors, moi, je vous appelle de Saône-et-Loire.
De Saône-et-Loire, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'aurai 57 ans le mois prochain.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Marcel ?
Alors moi, j'aurais voulu réagir à la dame que vous avez reçue lundi soir à l'antenne au sujet de l'affaire Buitoni.
Oui.
Voilà, donc moi, je travaille également dans l'agroalimentaire.
Oui.
Et c'est vrai que je trouve ces mouvements scandaleux, puisque une entreprise, je ne comprends pas qu'une entreprise ou un groupe comme ça ait pu en arriver là, quoi. Nous, il s'est passé le même problème dans mon entreprise, c'est qu'il y a quelques années, nous avons eu une très grosse fuite d'ammoniac.
Oui.
Donc, ils ont évacué l'atelier qui était en service. Ils ont fait laver les murs, ils ont repris le boulot, mais le problème, c'est que 6 personnes ont été hospitalisées suite aux odeurs d'ammoniac. Et donc, suite à ça, on a simplement muté le directeur sur un autre site. Voilà.
Mais est-ce que cette fuite d'ammoniac était d'abord, c'était une erreur humaine ou c'était dû à un matériel défectueux ?
Je pense que c'était un matériel défectueux.
D'accord. Donc, de votre point de vue, est-ce que ce sont des choses qui peuvent arriver ?
Ça peut arriver, mais ça ne doit pas arriver si les entretiens sont faits comme il faut.
Oui,
quoi.
D'accord. Et vous avez observé donc la situation. Et est-ce que pour vous, tout a été fait afin d'éviter d'avoir un problème dans la chaîne alimentaire, comme Ophélie nous l'a expliqué l'autre soir, parce que là, il s'agissait vraiment d'une intoxication qui a failli coûter la vie
Qui a coûté
ce petit garçon.
D'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, ouais. Alors, oui, il y a eu des personnes qui sont décédées suite à cette affaire.
Chez nous, non. Hospitalisées, oui, dont une femme qui était enceinte. Donc, il n'y a pas eu de répercussions sur elle et l'enfant. Mais bon, je veux dire par là qu'ils auraient pu éviter ça si les entretiens étaient faits régulièrement, quoi. Mm-hmm. Parce que moi, l'outil de travail se dégrade de plus en plus, quoi.
Alors, pour l'affaire Buitoni, Florian me dit qu'il y a eu deux morts. Mais bon, voilà, prendre...
Oui.
Mais il me semble avoir lu... je vous avoue que je n'avais pas... Je ne connaissais pas vraiment... J'avais bien entendu, comme tout le monde, entendu parler de ces pizzas qui étaient intoxiquées. Oui. J'avais entendu parler de la marque, bien évidemment. Mais je ne savais pas si vraiment des personnes avaient perdu la vie. Et visiblement, il y a au moins deux personnes qui ont péri à cause de cette intoxication. Oui. Vous êtes dans l'agroalimentaire. Donc, vous faites quoi, en fait, exactement, Marcel ?
Alors, nous, c'est un abattoir de volailles.
D'accord.
Voilà.
Et donc, comment est-ce que vous analysez les dernières années que vous avez pratiquées dans l'agroalimentaire ? Est-ce que de votre point de vue, la situation se dégrade ou...
Oui, la situation se dégrade. Oui, il n'y a pas d'entretien fait sur le matériel. On demande des entretiens, on nous répond, on n'a pas d'argent. Voilà, quoi.
Et est-ce que dans votre entreprise, en fait, c'est une grosse usine d'agroalimentaire beaucoup de volailles ?
Ah oui, c'est une grosse entreprise. On est pratiquement 800 employés, donc c'est une grosse entreprise.
Et qu'est-ce que vous y faites exactement ? Donc, vous recevez la volaille et vous la transformez ou vous élevez la volaille ?
Oui, voilà, c'est ça. On la reçoit vivante, en fait. On la tue, on la découpe. On la met en barquette après, et puis voilà, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et ça fait longtemps que vous faites ça ?
Moi, ça va faire 20 ans que je suis dans l'entreprise, oui.
D'accord. Ça va, ça n'est pas trop dur pour vous de voir ces poulets arriver, là, et de devoir les...
Bah, moi, je les vois pas... moi, je suis en fin de chaîne, hein, en fait.
D'accord.
Donc, mais c'est vrai que c'est le pire des travails, c'est ceux qui les tuent, quoi. Qui les accrochent et qui les tuent, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est un travail très, très difficile. Et ils ont des conditions pas top, quoi.
Mais quel regard vous portez, vous, Marcel, sur justement ce type de d'usine ? Alors, bon, on rentre dans un débat où il faut nourrir tout le monde.
Oui, oui.
Et malheureusement, aujourd'hui, on en est arrivé à avoir ce type d'établissement, mais ça vous pose quel type de questions, vous qui êtes dans la fabrication de tout ça, en tout cas dans la transformation de tout ça, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas pour vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on produit beaucoup trop ? Est-ce qu'on respecte toutes les normes ? Est-ce que finalement, ça n'est pas de la malbouffe au bout d'un moment ?
Si, au bout d'un moment, ça devient de la malbouffe, oui. Les conditions niveau hygiène, tout sont respectées, mais niveau conditions de travail vis-à-vis de... Pour nous, elles sont exécrables, quoi.
Puis 800 salariés, c'est tout de même... je suppose que dans la région, c'est important, cette usine.
C'est important, et c'est pour ça que voilà, quoi, ils peuvent faire entre parenthèses ce qu'ils veulent, voilà, quoi.
Bon, il y a pas tant de problèmes que ça en même temps, hein.
Mais bon, ça peut venir un jour comme comme c'est venu chez Buitoni, quoi. Et moi, ce que je déplore, c'est qu'ils se sont permis, je reviens au pizza, qu'ils se sont permis d'offrir 20 euros en bon d'achat aux parents des enfants qui sont décédés, quoi. C'est vraiment que l'humain n'est plus considéré à ce jour, quoi.
Ouais.
On compare l'humain à des profits, quoi.
Mmh. Et vous allez rester combien de temps encore ? Vous êtes à la retraite quand ?
Ben moi, je suis normalement, j'ai une carrière longue, donc je devrais pouvoir partir à 62, quoi.
Oui. Bon. Ça fait un peu peur, hein, de vous entendre dire que voilà, il y a de moins en moins de précautions, de prises. Il y a eu ce problème. C'est le seul problème qu'il y ait eu dans votre établissement ?
Oui, c'est le seul gros problème, oui, c'est le seul gros problème, oui.
Et quand vous dites que le directeur a été muté, vous sembliez, vous me disiez ça avec un ton un peu sarcastique.
Bah, Oui, parce que je pense que moi, voilà, quoi, parce qu'il y a eu un article dans la presse qui est paru, bien sûr, donc sa première chose, ça a été « on n'a pas perdu trop d'argent », et il a fait deux lignes sur les victimes. Moi, je pense qu'une personne comme ça, ça se condamne, quoi, excusez-moi, mais voilà, quoi. C'est... Pour moi, c'est mise en danger de la vie d'autrui.
Ouais, ça dépend d'un groupe, votre...
Oui, ça dépend d'un groupe, oui.
Ouais, donc en fait, ce directeur, il dépendait sans doute d'une politique générale de l'usine.
Bien sûr, oui, bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr.
Bon, et vous me disiez que vous étiez dans quelle région ?
Je suis en Saône-et-Loire.
En Saône-et-Loire, d'accord. Et vous faites, vous êtes marié ? Vous avez des enfants ?
Non, non, je suis célibataire.
D'accord. Bon, donc vous n'avez pas. Et quand vous faites vos courses, tiens, je voulais savoir, est-ce que vous vous achetez plutôt du frais à force de toute la journée travailler dans ce milieu-là et finalement, est-ce que vous n'avez pas un rejet de toute cette nourriture industrielle ?
Ah bah, je ne mange plus de poulet depuis environ, ça fait un an et demi que j'achète plus de poulet à l'usine, quoi.
Parce que vous achetiez du poulet à l'usine avant ?
Ben, on pouvait en acheter, oui, mais jusqu'à ce que je sache qu'ils fassent du 100% halal, et là, j'ai dit non, j'achète plus. Voilà.
Ah, parce qu'ils font du 100% halal maintenant, que ça ?
Voilà, oui, c'est ça. Ouais.
D'accord.
Ben, pour éviter justement les arrêts de chaîne, les nettoyages, qui perdent du temps, quoi.
Mais comment ça ? Expliquez-moi, je ne saisis pas.
Parce que normalement, quand s'il y a une loi, quand on fait du halal,
oui.
Quand la production halal est terminée, on doit arrêter la chaîne,
oui.
Nettoyer, désinfecter et reprendre le travail en découpe normale, quoi.
Oui.
Donc là, c'est une perte de temps pour eux et une perte d'argent. Donc, ils font tout du 100%. Ils tuent le poulet 100% façon halal.
D'accord. Et est-ce que vous vous êtes déjà renseigné sur ces poulets, en fait ? Ils viennent d'où ? Ils sont élevés comment ? Parce que...
Ben, c'est des élevages en batterie, hein.
Oui, oui. Et alors vous qui
dans la région ou dans les régions d'à côté et puis qui sont élevés en batterie. Quoi.
Ouais. Et vous qui manipulez cette viande, quoi, vous voyez, vous remarquez que on voit que c'est du poulet de batterie.
Ah, oui. Même, oui.
Comment vous voyez
oui,
ça
la qualité
en fait
de la viande, voilà, c'est pas du gros poulet, c'est pas voilà quoi.
Ouais.
Ça m'arrive d'acheter. Poulet de Bresse ou un vrai poulet fermier, je vois la différence tout de suite, quoi.
Ouais, vous m'étonnez. Ben, c'est pas la même, là. Hein.
Ah non, parce que non, là vous le faites cuire, il reste que les os, quoi. À la limite, c'est un peu ça, quoi.
Mais enfin, bon, en tout cas, c'est vrai que si on compare le nombre d'accidents qu'il peut y avoir dans l'agroalimentaire et la masse de production, c'est vrai que finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça aujourd'hui. La problématique, elle se situe ailleurs. C'est justement dans ce qu'on aborde là, c'est la qualité de ce qu'on mange.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc vous ne mangez plus de poulet, Marcel ?
Ah non, moi je ne mange plus de poulet, non.
Et qu'est-ce que vous mangez du coup ?
Ben, je mange de l'eau de viande, des légumes, voilà quoi.
D'accord. Et ça vous a poussé un peu à acheter un peu plus, justement, local, chez les agriculteurs
oui, c'est ça,
du coin ?
Oui, tout à fait. Oui. On a un marché, donc j'achète des petits producteurs, voilà, quoi.
C'est un peu plus cher, hein, chez les petits producteurs, finalement, sur le marché.
C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais je veux dire, on sait d'où ça vient, quoi.
Oui, oui.
Parce qu'on a un producteur à côté, là, qui fait aussi de la vente chez lui, direct, on va, voilà, on sait, ça sert de la terre, ça sort de la terre au consommateur, quoi,
ouais,
en
ouais.
fait.
Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour toutes ces précisions, Marcel. Ça donnera peut-être à réfléchir encore sur la manière de se nourrir, hein.
Ouais.
Parce qu'on est de plus en plus pressé, donc on est de plus en plus amené à acheter vite, hein, et dans des,
tout à fait, oui.
des
oui.
produits, c'est vrai que ça rend bien service, hein, des produits qu'on cuit vite, en tout cas qui sont surgelés. Voilà, on ne peut pas non plus critiquer voilà. Quand on pratique, mais c'est vrai que bon. Merci beaucoup pour votre appel sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, Marcel, et puis on vous embrasse. On accueille Claudine au 3921. Bonsoir Claudine.
Bonsoir Olivier, comment allez-vous ?
Ben ça va, on a quelques petits soucis, donc dans ces cas-là, c'était un peu long d'attendre, mais voilà, on est de retour, pourvu que ça tienne.
Ben, Oui, c'est bien.
D'où nous appelez-vous, Claudine ?
Eh ben moi, j'appelle de Fontenay-aux-Roses.
Fontenay-aux-Roses, donc tout près d'ici, région parisienne.
Ah, tout près d'ici, oui. Région parisienne, oui.
D'accord. Et quel âge avez-vous ?
69.
D'accord.
Mais 20 ans dans, en esprit. Hein.
Eh ben c'est parfait. C'est formidable. Voilà. Vous voulez me parler de quoi, Claudine ?
Oui, moi, je voulais parler de la grossophobie.
D'accord.
Parce que je suis quelqu'un de, ben, comme on dit, en obésité morbide.
Oui.
Donc, puis là, j'ai des depuis X temps, j'ai des problèmes de santé. Donc, je devrais, enfin, j'ai déjà eu une prothèse de genou, mais j'aurais dû en avoir une autre. Mais il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc, je n'ai pas pu avoir mes rendez-vous comme je voulais.
Oui, il y a eu beaucoup de retard hein, à tout niveau. Ouais.
Oui, oui. Mm-hmm. Et puis, je peux vous dire que maintenant, pour être soigné, pour trouver un médecin qui vous soigne correctement, c'est très difficile.
C'est pourquoi très difficile. Parce qu'il y a eu du retard et donc...
Disons que oui, et puis il y a beaucoup de médecins qui veulent déjà pu venir à domicile.
Oui, oui.
Déjà, ça, c'est très, très, très... Parce que je ne pense pas qu'à moi, hein, je pense aussi à ceux qui
oui,
sont...
Oui, bien sûr, bien sûr.
Qui sont gravataires et tout ça, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de... disons qu'on a beaucoup parlé du Covid, mais on a peu parlé des conséquences du plan blanc. Pour tous ceux qui sont comme moi, qui ont des problèmes de santé XXL, hein, comme les diabétiques, ceux qui sont cancéreux, tout ça, tous les diagnostics ont été reculés. Moi, je connais beaucoup d'amis, dont une amie qui, ça fait 4, elle a eu des problèmes, des gros problèmes de santé.
Oui.
Et puis là, même, elle a même ils sont partis sur le marché. Là, elle a refait tous ses examens et tout ça. Et puis, ils ont perdu quatre fois son dossier.
Quatre fois son dossier. D'accord.
Ah oui. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très malade. Alors, moi, je trouve ça... Bon, au départ, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Moi, dans ma rue, j'étais la seule tous les jours à 8 heures du soir de taper sur des gamelles pour les soignants. Et voilà. Et j'avais mis sur un drap courage à nos soignants, merci beaucoup, voilà. Et comme j'habite une cité où il y a beaucoup de soignants, donc ils étaient contents, quoi. Mais voilà, quoi. Et puis là, je me suis aperçue qu'en fin de compte, pour être soigné, il faut déjà... avoir un poids, disons, relativement normal.
C'est-à-dire, voilà.
C'est-à-dire, qu'entendez-vous que moi, par là à chaque fois, parce que à chaque fois, j'ai été, disons, j'ai été voir un médecin et tout. Je me suis débrouillée pour avoir mes rendez-vous. J'ai senti beaucoup de mépris parce que je suis grosse. Et on m'a même dit, parce que j'ai été dans... Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai été aux urgences.
Oui.
De l'hôpital des armées, là. Et ben, je peux te dire... Je vous tutoie. Je peux vous dire que... Oui, parce que là, en ce moment, vous savez, je suis toujours en colère, là, en ce moment.
Oui. Ouais, vous pouvez me tutoyer, hein, ça ne me dérange pas.
Oui. Et je peux te dire que, franchement... La médecin qui m'a reçue, déjà, elle n'était pas contente parce que la première chose qu'elle m'a dit, je suis le médecin et je suis en astreinte, voilà. Moi, j'en ai rien à faire. Hein.
Et ce n'est pas votre problème, bien évidemment.
Non, ce n'est pas mon problème. Et puis après, elle me dit, bon, elle m'examine et tout. Alors elle me dit, ben, on ne peut rien faire. Bon, on ne peut rien faire. Et puis, elle a attendu que... L'infirmière qui était là, l'aide-soignant, s'en aille pour me dire « De toute façon, vous savez bien pourquoi vous avez mal. » Alors je lui dis « Ben non, madame, pourquoi ?» Elle me dit, vous avez vu votre poids? Puis d'un air. D'un air, mais alors...
Méprisant?
Oui, oui. Vous savez, je me suis...
Mais comme si...
Mais je rêve.
Elle
je
vous
rêve.
Disait ça comme si vous vous étiez laissé aller, que vous aviez grossi sans... voilà,
oui,
que c'était
oui.
de votre faute, en fait.
C'est de ma faute, oui, oui.
Ouais.
Oui, oui, c'est de ma faute, voilà.
C'est fou, alors, j'entends de plus en plus de personnes qui nous appellent hein, et qui nous évoquent des réflexions venant de médecins. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les médecins baignent toute la journée dans la maladie, dans la gravité, dans, vous voyez oui. ce que je veux dire ? Et donc, ils ont oui. un décalage ou un détachement ou... Mais il y a de plus en plus
oui,
de médecins
aussi,
qui
j'ai...
ne se rendent pas
oui,
compte
oui.
de leur manière de parler.
Oui, oui, moi aussi, je me suis aperçue de ça. J'ai quand même... Je dis, c'est quelque chose. Moi, j'ai mon médecin traitant. Par exemple, au départ, quand j'ai eu ce médecin, il était très bien. Et maintenant, je ne comprends pas son attitude, du tout. Parce que moi, je ne peux pas me déplacer. Maintenant, en plus, comme... Mais mon arthrose et tout s'est aggravé. Maintenant, je suis, pour aller dehors, je suis en fauteuil roulant. Hein,
Ah oui, vous ne pouvez même plus marcher.
Je marche, à part dans la maison. Et encore dans la maison, je prends un ambulateur. Là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus faire mes courses moi-même. Mon ménage, je ne peux plus le faire. Regardez, même mettre des chaussettes ou une paire de chaussures, je ne peux pas. Toute seule, je ne peux pas.
Uh-huh.
Ah oui. Et ça, j'en veux à mon médecin. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à avoir des douleurs autres que les douleurs que j'avais d'habitude, je lui ai dit, vous savez, j'ai des douleurs, mais ce n'est pas la même chose que d'habitude. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me connais. Parce que je suis quelqu'un quand même de dynamique et tout.
Oui, oui.
Vous savez, je sortais Fontenay-Rose, ça monte et ça descend. Et j'étais toujours dehors, même avec mes béquilles. Et je prenais rarement, dans Fontenay-Rose, je prenais rarement les transports en
oui,
commun.
Ouais.
Hein. Ah oui.
C'est vrai que ça monte et ça descend, hein, Fontenay.
Oh là là, oui. Non, mais c'est... Alors, non, mais... Et en plus, il a pas... Il m'écoute pas. Il n'écoute pas ce que je dis. Il n'écoute pas ce que je dis.
Pourquoi ? Parce qu'il a son idée préconçue ou...
Oui,
il...
oui, ouais, voilà. Ouais. Son idée préconçue, c'est... En plus, comme je me suis fait faire une strip pour pouvoir être opérée de mon genou, parce que j'étais beaucoup trop grosse. Donc, et puis là, j'ai regrossi. Naturellement, je ne sors plus.
Et oui, vous ne faites plus de,
je
de
sors plus,
vous
je
ne faites plus d'exercice. Ouais.
Non, j'ai plus d'exercice. Et puis, en plus, j'ai été opérée de la strip. J'ai été opérée beaucoup trop tard dans l'âge. Beaucoup trop tard.
Et pourquoi ça ?
Eh bien, disons que personne ne me l'avait proposé, quoi. Je ne savais même pas que ça existait, moi, en plus.
Mais vous, vous ne l'avez pas vu arriver, en fait.
Non, non. Non, puis c'était, j'ai été opérée à 63 ans.
Oui, ouais, ouais, c'est tard. Et puis, le c'est fait tard. Que vous ne puissiez pas faire l'opération du deuxième genou,
oui.
ça a dû sacrément compliquer les choses en termes de...
Bah, ça complique, hein.
Bah, oui.
Parce qu'en plus, par-dessus le marché... Il n'y a pas, tellement longtemps, je me suis levée la nuit et mon genou, il a lâché. Donc, je me suis retrouvée par terre. Et comme je n'ai pas pu me relever, j'ai une alarme, vous savez, comme tout le monde. Donc, j'ai sonné l'alarme et tout, et les pompiers sont venus me ramasser. Et quand je me suis relevée, les pompiers ont un pompier qui me dit « Oh, bah, dites donc, votre lit, qu'est-ce qui grince ?» Je dis « Non, c'est pas mon lit !» C'est ma hanche qui vient de grincer, tellement c'était fort. Et depuis, alors là, ça s'est dégradé. Et c'est là que j'ai appris que j'avais aussi de l'arthrose aux hanches. Alors là, il y a une jambe que je traîne. Hein,
Et donc, revenons-en à ce médecin. Ça s'est fini comment, la consultation avec le médecin ?
Eh bien, écoutez, en plus, alors je lui ai dit, ben, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Il m'a fait, ah bon ? Voilà. C'est mon médecin traitant, ça. Ah bon ? Alors là, ah bon, c'était parce que j'ai de l'œdème maintenant dans mes jambes. Et il m'a rien donné. Il m'a rien donné.
Donc vous êtes reparti chez vous sans le moindre
traitement pour le... Ah oui, il m'a dit, bon, bah, oh, il m'a dit, c'est rien. Il m'a dit, vous avez l'habitude d'avoir mal. Non, mais je veux bien avoir l'habitude, mais là, j'arrive à saturation. Hein. Non, et puis...
Vous avez l'habitude d'avoir mal, il vous a dit ?
Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai beaucoup de problèmes. Disons, à l'extérieur, je suis très bien. Je suis comme une roche, mais à l'intérieur, je ne suis plus que Talarguste. Voilà, c'est ce que je dis. Ah oui, j'ai des gros problèmes osseux et tout ça.
Heureusement que vous avez la pêche, hein, j'entends quand même que vous
Écoutez, j'ai la pêche grâce à une psychiatre qui m'a... Et à un psychiatre, le psychiatre que j'avais avant, bon, il est décédé pendant le Covid, mais il n'est pas mort du Covid, hein, il est mort d'un cancer foudroyant. Et puis j'ai trouvé cette dame qui est très bien.
Oui.
Et qui m'a vraiment boosté pour me sortir de là, quoi. Pour sortir de la dépression que j'ai au moins depuis 30 ans. Alors, puis maintenant, j'ai la pêche. Et je me laisse pas faire. Voilà, je me laisse pas faire. Ça, il n'y a rien à faire. Comme je dis, de toute façon, les médecins, c'est simple. Vous les imaginez sans vêtements. Ce sont des hommes comme les autres, ou des femmes comme les autres.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Ah oui. Non, moi, je me fais pas soigner comme ça. Hein, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Puis là, je sais ce que je veux. Je veux un genou et une hanche pour que je puisse continuer ce que j'ai entrepris, parce que bon, je fais beaucoup de choses dans ma cité et tout. Je suis déléguée de quartier. Donc on est une quarantaine. On essaye de, si vous voulez, d'améliorer l'entente entre tous les locataires. On essaye de faire des fêtes. C'est sympathique. Et puis, je fais d'autres choses. Puis j'aide d'autres personnes, parce que ça a toujours été comme ça. Je m'oublie pour aider les autres. Voilà. Alors là, je vous dis, ça, en ce moment, je suis dans une fureur. Et puis en plus, comme je dors très, très peu, parce que ça m'empêche de dormir, les douleurs, je suis sur Facebook. Et alors, quelque chose que je ne supporte pas, c'est quand il y a et surtout des femmes qui font ça, mais qui sont énormes, qui font 200 ou 300 kilos, qui se montrent sur Facebook et tout. Mais je les comprends, parce que on est montré du doigt quand on est gros. Hein. On est montré du doigt. Et ces jeunes femmes, parce je vois qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi, ces jeunes femmes, elles se montrent parce qu'elles souffrent tellement des moqueries, du mépris des autres, qu'elles cherchent à, si vous voulez, à se faire voir, à dire, voilà, moi je me montre, je danse sur Facebook, parce qu'au moins comme ça, j'existe. Alors les critiques, alors là, même les critiques entre vous, des fois je dis, mais ils exagèrent, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire autre chose. Ah oui, écoutez, c'est inadmissible.
Et vous êtes entouré un petit peu ? Vous avez des amis qui viennent vous voir ?
Disons, ma famille, non. Ma famille, j'ai mis une croix dessus, c'est pas la peine d'assister. Voilà. Mais des amis, oh oui. Et puis là, j'ai quand même, parce que j'ai eu du mal à accepter la perte de mon autonomie, hein, ça c'est moi qui vous le dis, ça a même encore du mal à passer. Mais j'ai eu des échos, je peux vous dire, il y a plein de gens qui demandent de mes nouvelles, et on ne voit plus Claudine, et on m'a dit, qu'est-ce que t'as apprécié à Fontenay-aux-Roses, je ne savais pas, vous voyez.
Ça vous fait chaud au cœur, et personne ne vient vous voir. Il y a quand même des gens qui viennent vous voir.
Ah oui, mais vous savez, comme je ne peux pas me déplacer même dans la maison, je fais le minimum, mais je ne peux pas en faire trop quand même. Et ben, je laisse ma porte entrouverte, parce que j'ai les infirmières qui viennent, Voilà. Mais il y a toujours quelqu'un qui me dit « Oh, Claudine, on peut entrer ?» J'ai toujours quelqu'un qui passe. Puis alors, en plus, j'ai des voisins formidables. Ah oui, oui. Ah, je suis bien entourée par les amis. Bon, je peux vous dire aussi que ce qu'il y a, c'est que il y a des moments où je déprime fort. Hein, parce que là, des fois, c'est dur. C'est dur à supporter. C'est dur. Et puis, je ne dors pas beaucoup. Là, il y a en début de semaine, j'ai été 3 jours sans dormir du tout. Et alors ça, c'est terrible. Des nuits blanches. Et là, mon médecin ne croit pas. Quand je lui dis j'ai des nuits blanches, c'est vraiment que je ne dors pas.
Et lui, il vous croit pas?
Non, il ne me croit pas. Non, et puis en plus, vous savez, j'ai entendu pendant des années, même encore maintenant, c'est des douleurs psychologiques.
Non, mais ça, c'est insupportable, ça.
Oui, c'est insupportable. Parce que comme je me suis fait soigner, je ne me cache pas de dire que j'étais dans les services psychiatriques, hein. Et puis j'étais bien soignée. Mais voilà, hein. Faire de la dépression, aller en service psychiatrique, le service psychiatrique, c'est pour les fous, voilà. Et ça vient même de ma famille, hein.
Ah oui?
Alors là, oui, je peux vous dire, quand j'étais hospitalisée, j'ai fait des séjours à l'Hôtel Dieu, à la salle pétrière, à côté de chez moi, à Antony, mais ils sont jamais venus me voir. Jamais! Parce que je suis la honte de la famille. Ah oui. Enfin, moi je m'en fous parce que de toute façon j'ai jamais été seule. Alors.
Mais vous avez une grande famille quand même du côté là-bas ou...
On était 5.
Et pourquoi ils viennent pas du tout vous voir?
Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas se mêler de voilà. Pour eux, avoir de la dépression et puis aller en hôpital psychiatrique, ils n'ont pas encore compris que c'est pas parce que vous faites de la dépression que vous êtes fou.
Oui.
Non, ils comprennent pas ça. C'est terrible, hein. Puis bon.
Ouais, mais vous savez, maintenant, de toute façon, vous avez compris depuis un moment, je suppose.
Oh oui, et puis là, de toute façon, j'avais ma sœur aînée. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle m'a pourri la vie depuis que j'étais toute petite jusqu'à maintenant. Et là, comme il y a eu le Covid et tout, elle m'a fait un truc. Je lui dis, elle me téléphonait tous les jours. Je lui dis, tu sais, moi, ça va. Je suis au rez-de-chaussée, donc il faisait tellement beau que les fenêtres étaient toujours ouvertes. Puis quand il y avait des gens qui passaient, bon, on discutait, on parlait du Covid, parlait. Voilà, c'est gentil. Puis il y a ma soeur, moi je m'ennuie pas. Il y a toujours quelqu'un avec qui je parle et tout ça. Elle a été racontée à mon frère que je me mettais à la fenêtre et que j'insultais les gens qui passaient sur le trottoir. Alors, mon frère, il a pris le téléphone, il m'a engueulé. Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, il paraît que tu insultes les gens par la fenêtre. Je dis, quoi? Je dis, comment tu sais ça? C'est notre frangine qui m'a raconté ça. Alors, c'est moi qui vous le dis, j'ai pris le téléphone tout de suite derrière, j'ai téléphoné à ma frangine. Elle ose me dire que c'était pas vrai, que j'étais une menteuse.
ou que votre frère était un menteur?
Oui. Mon frère, non. En plus, je savais que mon frère, ce qu'il me disait, c'était ma frangine qui avait dit ça, parce que mon frère est incapable de mentir. Il est vraiment incapable. Hein.
Ça, c'est plutôt une qualité, hein, Claudine.
Ah oui. Et sa femme, elle disait, mon mari peut avoir une maîtresse. Hein, je le saurai tout de suite. Non, mais c'est vrai. Il n'a jamais su mentir.
Et lui, c'est pareil, il vient pas vous voir, il vous
non, puis pas de lui, bon déjà, il a 84 ans.
Ah oui, vous êtes la Benjamine, vous?
Moi, je suis la
petite
quatrième.
La quatrième.
Non, il y a encore une petite derrière.
D'accord. Et même elle, la petite, donc elle vient pas non plus?
Ah non, elle, de toute façon, elle a été trop gâtée par ma grande frangine, quoi. Et puis...
À la famille. Voilà, la famille.
Ah ouais, ouais. C'est moi qui vous le dis. Alors là, du coup, j'ai coupé court parce que comme je suis soignée par une psy de la Salpêtrière, elle m'avait dit, écoutez, franchement, votre sœur, elle est toxique pour vous. Mais j'ai eu du mal à l'accepter, ça. Et puis un jour, elle m'en a fait voir et tout. J'ai dit, puisque c'est comme ça, je ne veux plus t'entendre. Je romps tous les liens. Et j'ai raccroché et j'ai bloqué mes numéros de téléphone.
Et donc,
je m'y tiens.
Et vous ne les voyez plus du tout?
Non. Mon frère me téléphone de temps en temps.
Oui.
Puis il voudrait bien que je me renoue avec ma franchine. Parce que là, il m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Mais pas pour avoir... Au départ, vous savez, j'ai senti le truc. Il a essayé de m'avoir. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tout. Voilà. Mais après... Tout de suite, voilà, notre sœur, elle était gravement malade, ses fils, ils veulent la mettre en EHPAD et récupérer la maison. Moi, j'en ai rien à faire. De toute façon, elle a toujours été méchante, hein, et si ses fils, enfin, il y en a 2 sur 3 qui en veulent, c'est parce qu'elle en a fait voir. Parce qu'elle n'a jamais été gentille. Hein.
De toute façon, la famille, si c'est pour avoir des problèmes, ce n'est pas la peine.
Ah non, non, moi, c'est terminé, là. Moi, je veux vivre, je veux finir ma vie bien. J'en ai trop bavé. Déjà, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, maintenant, j'ai 50 ans. Si je vis encore 50 ans, je veux que ça soit 50 ans bien.
Tranquille.
Tranquille.
Voilà. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. En plus, si vous avez des amis, si vous avez des bons amis...
Oui. Oui, j'ai des très bons amis. Non, puis moi, de toute façon, je ne peux pas aller les voir. Ils habitent en Seine-et-Marne. Et moi, ça fait 2 heures de transport.
Ouais,
ben prendre le train,
ça,
tout ça, je ne peux plus.
Ouais, ouais.
Je ne peux plus. Ça fait des années que je n'y ai pas été.
Bon, et pour revenir sur la grossophobie, à part les médecins, vous la sentez, cette grossophobie, au quotidien? Enfin, lorsque vous sortiez encore, Vous sentiez le regard pesé sur vous?
Le regard, oui, le regard.
Ah oui.
Mais par contre, vous voyez, je fais quand même mon poids, mais moi, quand j'ai eu la SIV, j'étais malheureuse parce que j'ai perdu
beaucoup de poids. Oh là, je vous ai perdu.
Ah oui, là, je suis là.
Ah oui, d'accord, ok.
Je suis là.
Peur.
Oui, oui, il y a eu tout.
Ouais.
Non, non, et je, franchement, je ne me reconnaissais pas. Je n'osais même plus me regarder dans un miroir. Et quand j'ai repris du poids, là, c'était moi. Et moi, je ne me vois pas grosse. Ce sont les autres qui me voient grosse. Pas moi.
Ah oui, c'est ça. Ce sont les autres.
Non. Oui, oui. Dans ma tête, moi, je ne suis pas grosse. Hein. Uh-huh. Mais je peux m'habiller aussi bien en blanc, en rouge. Alors là, quand on me dit... ça te grossit et tout. Mais j'en ai rien à foutre.
Il faut y aller quand même pour dire un truc pareil aussi. Ça te grossit.
Oui. Oui, ça te grossit.
Moi, je n'oserais jamais dire un truc pareil.
Ouais. Et puis, je peux vous dire qu'il y a ma chère frangine, il n'y a pas juste au début du Covid, d'abord, elle me téléphonait des fois 3-4 fois par jour. Et elle me téléphone, elle me dit « Alors, ma grosse, tu vas bien ?» Je dis « Pardon ?» Tu dis pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Excuse-moi, j'ai rien dit. Oui, oui. Et là, je pourrais lui téléphoner, lui dire, tu te rappelles, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Oh non, non, c'est pas vrai. Alors...
Elle vous dit
ça. Le pire, c'est ce qui m'a fait... C'est la famille. Enfin, les autres, non. Bon, mon frère, il aime bien manger, vous savez... Beaucoup. Lui, on dirait qu'il va accoucher.
Comment ça?
Ah, parce que il a un ventre. Il est gourmand, mon frère. Très gourmand. Mais ma frangine. Oh! Puis alors, vous savez, en plus, on a plus ou moins des atomes crochus entre frères et sœurs.
Ouais.
Et elle s'est toujours arrangée pour dire du mal. Des uns et des autres. Donc, on sait, quand mes parents sont décédés, la famille, elle a éclaté. Et c'est une bonne partie à cause d'elle. Ah oui, oui.
Une bonne partie à cause d'elle, pourquoi? Parce qu'elle faisait des histoires?
Oui, parce qu'elle racontait des trucs. Moi, il y a une de mes sœurs là, qui est morte quand il y a eu le Covid, là, au mois d'avril, mais elle est morte.
Oui, oui.
Je ne savais pas, elle avait un cancer du poumon. Et elle ne me l'a jamais dit. Donc, elle est morte chez elle et tout. Oh, si vous saviez tout ce que j'ai entendu sur elle. Mais c'est pas possible qu'elle raconte des trucs comme ça. C'est impensable, impensable. Ah, que c'est...
Elle a ça dans le... Elle est méchante, en fait.
Elle est méchante, oui.
Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens comme ça.
Oui, oui.
Des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de dire du mal.
Même le médecin que j'avais avant, parce que, bon, le pauvre, il est mort aussi, lui. Mais celui que j'avais avant, un jour, j'étais tellement mal, il lui téléphone, il lui dit, est-ce que vous pouvez prendre Claudine quelques jours, ça lui ferait du bien, et vous, vous seriez contente aussi. Ah, non, 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 moi, je peux pas la coucher, vous vous rendez compte? Si elle est malade, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Et puis, elle ne pourra pas se coucher parce que le lit, il est trop bas. Non, écoutez. Ouais, ouais. Alors, le médecin, il a compris. Hein. S'il était écœuré.
Ah oui?
Ah oui, oui.
Mais
alors, bon, j'ai jamais compté sur la famille pour quoi que ce soit. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, déjà, j'ai toujours été grosse, hein. Ça, vous savez, quand une maman qui pèse toute nue, même pas 50 kilos, et qui fait un bébé de plus de 5 kilos, hein, je suis toujours restée costaud. Hein. Mais ça ne m'a jamais gênée, moi.
Eh ben, tant mieux que ça ne vous ait jamais gênée.
Ah non, 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 c'était les autres. Vous savez, quand je regarde des fois que je regarde les gens, je dis, oh, qu'est-ce qu'elle est maigre. C'est pas beau. Quand on est trop maigre, non, non. Ah non, moi, ça m'a pas gêné.
En tout cas, vous avez encore la pêche. Là, ça,
oui,
ça s'entend.
Oui. Ben heureusement, parce que... Puis vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis. Parce que, bon, là, il y a deux jours, j'étais obligée de retourner à l'hôpital parce que j'avais trop mal.
Oui.
Eh ben, je peux vous dire que... j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. On est venu, on m'a soutenu parce que j'aurais fait n'importe quelle bêtise. Là. Tellement j'avais mal.
Ma pauvre. Ouais. Bon, bah, en tout cas, j'ai été ravi de faire ce petit brin de causette avec vous, ma chère Claudine. Mmh. Et puis, bah, bien évidemment, je vous souhaite du courage. Et puis,
vous savez, j'ai une devise, c'est Claudine, à Claudine, rien d'impossible.
Bah, vous avez raison. Et puis, gardez-la bien pour vous, hein, cette devise. Oui. Et puis, continuez à avoir le moral, parce que ça compte énormément. Hein.
Oui, oui.
Je vous embrasse bien fort, Claudine.
Eh ben, moi aussi.
Et puis, merci.
Et puis, bonne soirée à toute votre équipe. Hein.
Et puis, à vous aussi, Claudine.
Eh ben, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Demain, à partir de 23h, vous retrouvez l'excellent Yann Moix. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne nuit. Occupez bien de vous. Et puis, on se retrouve dès lundi. Salut.